CO2 Mon Amour avec le WWF. Changeons nos modes de vie pour vivre en harmonie avec la nature. Rendez-vous sur www.fr.
Les animaux, faut les voir à la campagne, faut les voir vivre, quoi.
CO2 Mon Amour.
Et je me rappelle un coq de ma grand-mère qui venait dans la maison pendant que nous prenions nos repas, nous déjeunions. Et il était dressé, je ne l'ai pas dressé, c'est lui qui s'était dressé tout seul, je lui lançais des morceaux d'aliments et il les attrapait, mais infailliblement. Et il savait exactement, à l'heure du déjeuner, il venait se mettre à table avec nous.
Avec Denis Chessou.
Oui, les animaux, enfin, sont complémentaires de la vie de l'homme, quoi. Ils lui donnent un aspect, quelquefois, que notre vie courante n'aurait pas sans leur concours.
Sur France Inter.
Ils nous aident.
Eh ben oui, Santonio et Berrurier avec la voix de Frédéric Dard, s'intéresser donc aussi aux animaux. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. C'est au de mon amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, avec Léo Prangère et Antoine Teboul à la technique, et je n'oublierai pas Bastien Chapelle à France Bleu Drôme Ardèche. Camille Blanès, Marion, Philippe, cette semaine, nos assistantes, Xavier Pestugia, qui réalise l'émission. Alors, vous trouvez que l'immobilier est trop cher, EDF et l'autorité de sûreté nucléaire, eh bien, peuvent vous aider à faire baisser le prix du mètre carré. Alors là, il s'agirait du département du Cher, du côté de Belleville-sur-Loire. Comment? Eh bien, en envisageant de construire un nouveau bassin de stockage, une piscine plus qu'olympique pour y déposer les combustibles usés, brûlants, hautement radioactif, comme l'a soulevé le site Reporter cette semaine. Alors pourquoi? Parce que dans la superbe pointe du Cotentin, c'est vrai que c'est très très beau, où d'ailleurs Prévert passe le plus clair de son éternité, et ben au centre de la Hague, la sécurité n'est pas forcément suffisante. Alors bien sûr, il faut bien mettre quelque part donc ces déchets, hein, de nos activités, de nos plaisirs, de nos consommations à tous. Et là, il s'agirait de MOX, donc mélange délicieux d'uranium et de plutonium. Mais le MOX ne fait pas du tout valoir ses droits à la retraite comme ça. Non, il fait durer le plaisir en restant gaillardement chaud bouillant et radioactif pour les siècles des siècles. Amen. Il est équipé de slips blindés, on force nos déchets à prendre la brasse coulée, une chaîne autour du cou et hop dans le bassin. À condition de maîtriser à jamais le niveau du grand bain et les températures, largement suffisantes d'ailleurs pour la cuisson des homards. Alors la Loire, belle sauvageonne, donne déjà son eau aux centrales pour les refroidir et fabriquer des nuages de vapeur d'eau au milieu des coquelicots. Le bonheur donc sur catalogue de nos sociétés religieusement atomisées dont on a tous bénéficié, car c'est pas exactement demain que nos TGV vont rouler au solaire, mais après-demain, après tout, allez savoir, on n'en sait rien. En bord de Loire, donc le dernier fleuve libre comme on dit, les centrales ont cohabité avec nos plus prestigieux châteaux. La Renaissance, le Renouveau, une société donc clean-up. Et la Loire à Belleville devra peut-être, je dis bien peut-être car la décision de transfert évidemment n'est pas prise, elle devra aussi calmer les chaudes pulsions du déchet radioactif. Bon, inutile de dire que sur le sujet, l'omerta son trop plein de max de mox. Allez, suivez mon panache blanc, tout va bien. Et puis une autre information, je pense qu'elle vous a complètement échappé celle-là. Si, ça je le vois bien. Aujourd'hui, 17 février. Hein, c'est la fête mondiale de qui ça? C'est la fête Saint-Valentin? Non, ça vous oubliez, vous êtes en retard. Du bouchon de bouteille en plastique? Non plus. Non, c'est la journée mondiale du pangolin. Vous voyez, je sens une interrogation muette dans vos yeux. Le pangolin, donc ce bel inconnu cuirassé, mammifère à boule d'écailles. C'est une espèce de pomme de pin géante et fouisseuse qui s'échine encore à survivre dans toute la zone tropicale et qui dévorait jusqu'ici sans trop de soucis les fourmis, les termites, dans les forêts, les savanes d'Afrique et d'Asie. Mais comme il est le plus, vous entendez bien, trafiqué au monde, eh bien, il vient de monter sur la première marche du podium des espèces gravement menacées. Bon. Pour chasser pour sa chair en Chine, à Hong Kong ou au Vietnam, on adore en ragoût, en carpaccio, le pangolin, c'est topissime, mais surtout pour ses écailles de kératine vendues à prix d'or sur les places boursières habituelles. Le trafic a pris des proportions hors de contrôle, incompatibles avec ses capacités de reproduction dans la nature. Alors, le Fonds international pour la protection des animaux fait son boulot et nous informe avec cette journée mondiale. Certes, le pangolin dispose bien d'une langue fine et longue, mais pas assez pour se défendre lui-même devant les assises internationales du bon sens. Et de quoi allons-nous parler? Eh bien, de rénovation. Bonjour Olivier Sidler.
Bonjour Denis.
Alors Olivier Sidler, vous êtes, grâce à nos amis de France Bleu Drôme-Ardèche, relié avec nous. Vous êtes le cofondateur de l'association Négawatt. Vous êtes spécialiste de maîtrise de l'énergie dans le bâtiment depuis très très longtemps, ancien directeur d'Enertech. Alors juste simplement pour donner envie à nos amis, de quoi allons-nous parler ?
Mais on va parler de la rénovation thermique des logements. On va voir comment est-ce qu'il faut s'y prendre pour faire une rénovation qui soit efficace et surtout accessible sur le plan économique. Et puis on parlera peut-être aussi de ce qu'il faudrait mettre en place pour qu'on puisse enfin rénover 700 000 logements par an à très basse consommation. C'est le climat qui est en jeu, hein. C'est ça le fond de l'affaire.
On vous retrouve d'ici quelques minutes, mais auparavant un sujet qui va vous intéresser parce que j'ai appelé Claude Capillon. Claude Capillon est le maire de Rosny-sous-Bois, donc plus de 44 000 habitants, nous sommes en Seine-Saint-Denis. Et en septembre, les jeunes élèves ont commencé leur année scolaire dans une école qui a été construite avec 80% de matériaux biosourcés, donc ça c'est une très bonne nouvelle. C'est l'école des Boutours. Alors bon, c'est pas neuf parce qu'il y avait déjà la création d'un agenda 21. Il y avait un conseil local du développement durable, une participation de Rosny-sous-Bois à la COP 21 aussi, et le développement durable qui est intégré dans le cursus des élèves. Alors racontez-nous, Claude Capillon, donc un peu ce qu'il y a. Allez, c'est pas votre coup d'essai, donc où en est-on avec cette école ?
La première opération que j'ai réalisée avec les services, c'est une réhabilitation d'une école des années 60 avec une façade bioclimatique. Ça, c'était dans les années 2010-2011.
Donc, ça veut dire qu'elle est orientée en fonction, évidemment, du rayonnement solaire, hein, c'est ça, le bioclimatique.
Tout à fait, oui. On joue avec les saisons, avec voilà. Des arbres qui protègent l'école en période d'été, et puis avec des récupérations de chaleur pendant la période d'hiver. Ce qui est important, c'est que j'ai tenu à faire ces projets avec une maîtrise d'œuvre interne à la ville de Rosny.
C'est-à-dire qu'il y a à la fois la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage. Alors c'est très intéressant, parce que là on va se tourner maintenant vers Emmanuel Pézeres, qui est donc architecte, qui travaille évidemment pour votre ville. Emmanuel Pézeres, alors racontez-nous, donc cette éco-école, elle est faite à partir de quoi ? Quels sont les matériaux que vous avez biosourcés ?
Cette école, elle est faite principalement à partir de bois et de paille, avec une économie de matière, y compris dans ces matériaux biosourcés, parce que la paille est d'abord un déchet, maintenant un coproduit de l'agriculture, et nous, par différentes innovations, essayons aussi d'éviter un impact trop grand sur ces produits certes renouvelables, mais qui créent notre écosystème forestier.
Matériaux extrêmement sains, et en plus, ce qui vient dans un rayon autour de Rosny-sous-Bois de combien de kilomètres ?
Pour la paille, elle vient de Seine-et-Marne.
Oui, donc c'est à côté.
C'est tout proche. Pour le bois, il est français, du Jura, avec un bannissement complet de tout ce qui est bois exotique.
Alors, ce qui est intéressant, maintenant, je suis une petite fille, je suis un petit garçon, je vis dedans, je vis à quelle température ? Comment ça se passe ? On doit être bien là-dedans, là ?
Eh bien, on est très bien isolé du fait de la paille. On est aussi très bien aéré du fait d'une autre innovation qui est la ventilation naturelle avec récupération de chaleur. Parce que il ne s'agit pas seulement d'avoir des bâtiments très isolés, mais aussi il faut très bien les aérer. Et c'est là qu'on a souvent beaucoup de déperditions de chaleur. Nous avons essayé d'avoir un renouvellement maximum de l'air, mais sans faire appel à des machines trop compliquées. Nous avons inventé un système que nous avons repris de l'histoire, qui s'appelle des tours à vent, auxquels nous avons ajouté une récupération de chaleur en base. Voilà, une deuxième innovation qui permet de se sentir bien au quotidien.
Est-ce que ça a été compliqué d'avoir des entreprises ? Parce qu'il faut même pour être un peu pointu quand même dans ce domaine.
Alors compliqué non, puisque comme monsieur le maire le disait, c'est un processus qu'on mène depuis 10 ans, donc on tresse des liens sur notre territoire. Et au contraire, on a cherché des entreprises qui avaient aussi une vocation sociale. L'entreprise qui a mis en œuvre la paille porteuse est une entreprise d'insertion qui s'appelle La Piche Batte et qui est toute proche de Rosny-sous-Bois à Saint-Denis. Donc non seulement c'est pas compliqué, mais ce sont des partenaires précieux quand on travaille en amont avec eux.
J'ai trouvé une chose assez originale, c'est que vous avez travaillé avec les tricoteuses de Rosny-sous-Bois, racontez-nous.
Il s'agit aussi pour nous de pas seulement construire un bâtiment, mais aussi d'engager un changement culturel. Donc, ce qu'on devait simplement passer d'une culture où on chauffait que l'espace à une culture où on chauffait les corps. Donc, ayant des enfants ouverts à tout, nous avons pensé que faire des petits gilets en laine bio française avec nos tricoteuses qui se réunissent au bout de la rue, ça pouvait engager un changement de culture par rapport à son confort et par rapport à l'impact qu'on a vis-à-vis de l'environnement.
Ça veut donc dire que les enfants, quand il fait un petit peu froid, quand ils rentrent à l'école, ils ont à leur disposition un gilet de laine bio.
Et une étiquette, servez-vous si vous avez froid.
Et d'ailleurs, si je peux me permettre, je voudrais rajouter que sur ce projet-là, bénévoles et professionnels ont quant à eux travaillé ensemble afin de construire, par exemple, le mur en paille portée de l'enceinte de l'école maternelle. Donc pour faire ça, il y a des ateliers de formation qui ont été organisés et c'est à peu près 150 bénévoles qui ont réalisé plus de 4000 briques en terre cuite.
Voilà, et donc il y a d'autres projets avec un autre quartier qui sortira bientôt de terre, une plantation de forêt nourricière. Merci donc à vous Claude Capillon et puis Emmanuel Pézeres, pardonnez-moi, donc l'architecte de cette ville, qui va lancer d'ailleurs notre sujet sur la rénovation avec Olivier Sidler dans quelques instants.
Monsieur Mamie et Monsieur Pirelli. À partir d'aujourd'hui, ils travaillent pour vous, donc.
Mais ils sont que deux pour faire tous les travaux?
Ben oui, ils sont polyvalents, ça, ils savent tout faire.
Bon, ben, par quoi on commence?
Ben, qu'est-ce que vous voulez comme travaux?
CO2, mon amour.
Mais vous n'avez pas amené de plan?
Ah, c'est que quand on est perdu qu'on a besoin de plan.
Oh, je m'excuse. Non, les plans, c'est une invention de l'architecte pour justifier les grosses factures, c'est tout.
Sur France Inter.
Voilà, ça commence donc très très bien. Rénovons nos maisons et nos appartements. Dans le maquis des aides diverses, les crédits d'impôts, etc. Comment s'y retrouver? Quel intérêt ai-je à rénover? Quels sont les grands enjeux et les grandes lignes pour rénover efficacement? Donc on va en parler avec vous, Olivier Sidler, donc énergéticien, concepteur, qui connaît bien le domaine des bâtiments. Et c'est vrai que la réussite de la transition écologique repose notamment, pas que, mais sur le secteur du bâtiment, car le logement, c'est 45% d'énergie consommée en France, et ça émet 25% des émissions de gaz à effet de serre. Le transport est un peu supérieur là-dessus, on est autour de 27-28. Alors, Olivier Sidler, donc avec nos pas loin de 35 millions d'habitations. C'est, là, c'est tout le parc. Hein. 35 millions, c'est le résidentiel, les maisons secondaires, ceux qui sont vacances, c'est en gros, c'est 35 millions. On va parler, nous, principalement, on va dire, des habitations principales. Et on a quand même pas mal de passoires thermiques. Alors, quels sont les enjeux, Olivier Sidler?
Alors, il y a 28 400 000 résidences principales. C'est à celle-là qu'on va s'intéresser. Les enjeux, en gros, c'est le climat. Tout tourne autour du climat. La première chose, c'est dans les objectifs qui sont fixés en France par la loi et par le plan de rénovation qui a été publié il y a deux mois par le gouvernement, c'est d'abord d'avoir une neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire de ne plus rajouter du tout de carbone fossile, celui qu'on va chercher sous terre, dans l'atmosphère. C'est-à-dire que, par exemple, dans une maison, on ne peut plus brûler du fioul ou du gaz d'origine fossile, hein, celui qu'on a été chercher sous terre. Tout ça doit être terminé. Et puis, le deuxième objectif, c'est la manière dont on concrétise cette neutralité carbone. C'est qu'il faut que d'ici 2050, l'ensemble des logements ait été rénové au niveau basse consommation. C'est-à-dire, en gros, 4 ou 5 fois moins que ce que consomment les logements aujourd'hui, environ 50 kWh par mètre carré par an.
Alors, ça représente l'enjeu en question, vous avez commencé à citer un chiffre tout à l'heure qui était assez impressionnant. Il faudrait donc, le rythme de rénovation, ce serait quoi, alors qu'on n'y est pas?
700 000 logements par an à ce niveau-là. Oui. Aujourd'hui, on rénove, d'après l'Observatoire BBC, 16 000 logements BBC par an, c'est-à-dire qu'il faut faire 40 fois plus, il faut donc changer complètement de rythme. C'est un enjeu qui est fondamental, si on réussit pas ça, on passera complètement à côté de la lutte contre le changement climatique, et on n'a plus de temps à perdre dans le scénario négawatt. On voit très bien que plus on va attendre maintenant, moins on aura de chance de réussir ce pari. C'est en gros les dernières années où on peut démarrer des politiques extrêmement ambitieuses qui peuvent arriver à nous faire atteindre ces objectifs-là. Sinon, c'est perdu.
Les Allemands font 265 000 logements en rénovation par an.
Voilà, les Allemands ont une stratégie qui date de bien plus longtemps que nous. Ils ont commencé vers l'an 2000. Ils sont actuellement à 0,8% de leur parc par an, c'est-à-dire 265 000. Mais on le voit, 0,8%, ça veut dire 125 ans pour rénover tout le parc. C'est beaucoup trop lent. Alors, on reviendra peut-être sur l'exemple allemand, parce que c'est un exemple qui est construit justement sur l'incitation, mais avec beaucoup d'aide. 25% d'aide et des prêts à taux très très bas. Et malgré ça, l'Allemagne n'y arrive pas. Donc je pense qu'il va falloir changer de méthode.
Oui. Alors donc maintenant, l'intérêt que je peux avoir. Maintenant, je suis particulier. Il y a 58% aujourd'hui de gens qui sont propriétaires de leur habitation principale. Donc quel est mon intérêt?
Il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt en fait. Et ça, il faut que les auditeurs en soient conscients. Le premier de tous, évidemment, c'est d'améliorer considérablement son confort. J'ai vécu, comme tout le monde, dans des maisons qui n'étaient pas isolées. On a tout le temps froid, même si on monte le chauffage à fond. Les parois sont froides, les fenêtres envoient un rayonnement très froid. On n'est pas bien, même quand on chauffe à 22 ou 23 degrés, on se sent pas très très bien. Il y a des courants d'air, on les sent même pas. Mais quand on mesure aujourd'hui, c'est énorme la quantité d'air parasite qui traverse le logement. Quand il y a du vent, par exemple, dans la Drôme, les logements perdent 4 degrés facilement. Donc, j'ai même vu des HLM où les jours de Mistral, il faisait 13 degrés à l'intérieur. Donc, infiltration d'air supprimée, paroi froide supprimée, c'est un immense confort qu'on obtient quand on est dans des logements qui sont rénovés. Ça, c'est la première chose au niveau du confort. Mais il y a aussi au niveau des dépenses. On va réduire sa dépense de chauffage de 75 à 80% si on réussit sa rénovation. Alors attention, il y a toujours les abonnements, ceux-là on n'y touche malheureusement pas ou très peu, hein. Donc c'est sur le consommable, sur l'énergie qu'on a consommée, on peut réduire d'un facteur 4, 5.
Pas sur la partie
5.
Abonnement, d'accord.
Ben non, pas trop sur la partie abonnement. On se prémunit, c'est aussi un avantage, des hausses complètement imprévisibles et parfois très violentes du prix de l'énergie sur le marché international. Là, comme on consomme presque plus rien, en valeur intrinsèque dans le porte-monnaie, ça change pas grand-chose à la fin de l'année. Et alors, il y a quelque chose d'extrêmement important qui n'est jamais pris en compte, mais il y a une valorisation du logement une fois qu'il est rénové. Il vaut souvent plus que ce qui valait avant, additionné du prix des travaux.
Alors, j'ai regardé, si vous voulez, vraiment des statistiques des notaires de France, et vous avez des variations de 10 à 15% en fonction de l'isolation de la maison aujourd'hui.
Oui, mais c'est même par classe énergétique. On compte 5% par classe énergétique. Donc, quand on a de la classe G et qu'on arrive en classe B, c'est peut-être 30% qu'on a, dont on a amélioré la valeur du logement. Ça veut dire Pour faire très simple, ça veut dire que quand on fait une rénovation thermique, on ne prend aucun risque financier. Le jour où on part, de toute façon, on récupère tout ce qu'on a mis dans la mise. Puis le dernier avantage qu'on peut citer quand même, c'est que on joue son rôle de citoyen, on contribue à lutter contre le changement climatique. C'est l'affaire de tous. Et si on ne s'y mêle pas tous, si on fait pas chacun cet effort-là, on coulera tous ensemble. Voilà.
Non, on va pas. Mais ça suffit. Attendez, ça va. Hein. Faites ce que vous voulez dans le Rhône à côté. Non. On va essayer de trouver des solutions, cher ami. Voilà.
Il y en a.
Non. Mais ce que vous dites, ce qui est juste, c'est que si vraiment on ne prend pas en compte ces différents éléments, on va vivre une civilisation qui va être extrêmement compliquée, ça c'est certain. Et justement, on essaie de poser donc les portes qui peuvent s'ouvrir merveilleusement. Vous aviez parlé du Mistral, c'est vrai que du côté de chez vous, il y a quand même le verrou de Donzère qui est pas loin non plus. Et quand le Mistral, même du côté de Valence, se met à souffler, ce vent du nord donc vous refroidit drôlement. Alors, j'ai rencontré hier Florence Clément de l'ADEME. Donc elle n'est pas avec nous parce qu'elle est partie en vacances. Et donc on va parler aussi quand même du nerf de la guerre, autrement dit le financement. On va en parler en deux fois, donc vous ne pourrez pas converser donc avec elle. Et c'est intéressant donc de savoir quelles sont les aides. Je vous parlais un peu de maquis au milieu des aides, c'est assez incroyable. Donc on va passer en revue les aides qui permettent d'améliorer la performance énergétique du logement. Et alors d'abord je vous dis bonjour Florence Clément. Et puis alors entre autres on a le fameux crédit d'impôt.
Bonjour. Alors, il y a beaucoup de travaux possibles, tout ce qui va concerner l'isolation du toit, des murs, des fenêtres, mais aussi des planchers bas. Quand on est par exemple sur un sous-sol et qu'il y a une entrée d'air froid qui passe par le sous-sol, on peut aussi isoler cette partie du logement. Il est aussi possible d'obtenir le crédit d'impôt pour des travaux sur le chauffage. Mmh. Alors, soit changer sa chaudière,
Attention, chaudière à fioul, là, ça va se gâter, là, quand même.
Ah oui, autant les chaudières gaz restent éligibles au crédit d'impôt pendant toute l'année. Mais les chaudières fuel, en fait, elles doivent être de très haute performance énergétique et elles n'obtiendront le crédit d'impôt que pour des travaux qui sont réalisés avant le mois de juin, enfin fin juin 2018.
D'accord. Bon, alors, mais ça c'est quoi? On obtient quoi? 15%?
15% pour les chaudières, effet, fuel.
Fuel.
Pour les gaz, c'est reste à 30%. Voilà. Pour tous ces travaux donc qui concernent l'isolation, le chauffage, mais alors après il y a aussi d'autres choses comme l'installation d'énergie renouvelable à la maison. On peut par exemple obtenir un crédit d'impôt si vous installez une pompe à chaleur, un chauffe-eau solaire, un poêle à bois. Mmh. Toutes ces énergies renouvelables qui rentrent chez vous sont
30% aidées. Là aussi.
30%.
Alors c'est sur le matériel et sur la pose?
Pour ce qui est matériel et pose, c'est uniquement pour des travaux qui coûtent très cher en main d'œuvre, comme l'isolation des parois opaques, du toit, des murs et des planchers bas. Là, la main d'œuvre est comptée.
Et sinon, ce sera que sur le matériel?
Et sinon, c'est que sur le matériel.
En ce qui concerne donc les fenêtres et les portes-fenêtres, où en est-on?
Eh bien là aussi, il y a un petit changement en 2018, puisque avant on avait le droit à un crédit d'impôt de 30% pour les fenêtres. Et puis en 2018, les choses changent. Vous ne pourrez maintenant plus bénéficier d'un crédit d'impôt que de 15% sur les fenêtres. Et avec une précision supplémentaire, c'est qu'il faut remplacer des fenêtres simples vitrage.
Mais c'est-à-dire que si j'ai déjà un double vitrage que j'ai posé, mettons, il y a 10 ans ou il y a 15 ans...
Ce n'est plus possible d'obtenir de crédit d'impôt. Et condition supplémentaire, c'est que les fenêtres n'ont droit au crédit d'impôt que jusqu'au 30 juin 2018. Également.
Oui, t'as compris qu'il fallait se dépêcher,
voilà.
Là, quand même.
Alors, il y a un petit truc à ajouter qui peut quand même aider vos auditeurs, c'est que s'il y a un devis qui a été signé, un premier acompte versé avant le 30 juin, eh bien, dans ces cas-là, il sera encore possible de réaliser les travaux et de les finir après le mois de juin. Ça fonctionnera quand même pour avoir le crédit d'impôt.
Florence Clément, on a parlé du crédit d'impôt. Maintenant, regardons les aides, on va dire, locales. Autrement dit, qui peuvent venir des départements, des communes, des communautés de communes.
Et là, oui, il y en a beaucoup, beaucoup.
Là moi, j'arrive pas. Hein.
Mais non, forcément. C'est sûr. Alors, c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que l'État a mis en place un service public de la rénovation énergétique pour aider les gens. Parce que, bien sûr, qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Mais quand vous êtes accompagné par un conseiller, et en plus, gratuitement, qui va vous aider...
Et qui est neutre.
Et qui va vous aider, justement, à trouver les meilleurs travaux pour vous. Toutes les aides auxquelles vous avez droit, c'est quand même très précieux.
Donc ça, c'est les conseillers Info Énergie. Hein.
Voilà, c'est les points rénovation Info Service, en fait, qui vont regrouper tous ces conseillers, les espaces Info Énergie, mais aussi les opérateurs de l'ANA, et puis aussi les conseillers de l'agence.
Alors quand vous dites l'ANA, c'est donc l'agence nationale de l'habitat.
Voilà, et donc qui aide les personnes qui ont des revenus modestes et très modestes. Et puis vous avez aussi des conseillers qui vont vous accompagner, ceux de l'ANIL, l'agence nationale d'information sur le logement, qui va pouvoir accompagner les personnes qui recherchent aussi des informations juridiques.
On aime bien quand il y a un guichet unique, ça peut aider,
ça
parce que ça facilite quand même drôlement les choses. choses. Quelques exemples quand même, évidemment, on ne va pas détailler tout ce qui se passe dans les communes et les départements ou les régions, mais quelques exemples intéressants quand même.
Oui, c'est vrai que j'ai essayé de sélectionner quelques exemples qui sont assez parlants. Par exemple, la ville de Montreuil va aider les travaux d'efficacité énergétique. 40% du coût des travaux qui seront plafonnés, donc cette aide sera plafonnée à 1000 euros dans une maison, à 500 euros dans un appartement. Mais par exemple, elle va attribuer 1200 euros si vous faites le toit, si vous isolez le toit. Elle fait des aides, des incitations un petit peu plus importantes. Alors, une super aide aussi de la région Normandie qui va donner des chèques assez importants si vous réalisez un audit énergétique, hein, un chèque de 800 euros, mais alors qui va bien, bien aider les travaux, puisqu'en fait, il y a une possibilité d'obtenir une aide qui va de 2500 à 9000 euros sur des travaux, mais en fonction de leur performance énergétique. Donc, forcément, 9000 euros, c'est que vous faites bien.
Et on parlera donc aussi du prêt à taux zéro, du rôle des banques. C'est très intéressant aussi le rôle des banques, là, qui a un peu freiné là, comme il faut pour mettre tout ça aussi en musique. Donc toujours avec, ce sera donc, on retrouvera Florence Clément et puis donc Olivier Sidler, juste après qui. Bon, Pierre Barou, vous voulez de l'eau? Allez, on y va.
Droit devant moi, je cours les routes en vagabond de grand chemin. Je fuis l'amour et ma déroute. Parfois je verse des pleurs sur mes jours anciens. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Tibadunda, padambadumbadwida, tibadunda, padambadumbadwida, tibadunda, payunda. Lorsque l'orage vient, je goûte la terre qui se change en parfum. Et si la pluie pèse ses gouttes, je chante auprès de mon arbre, j'en attends la fin. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Tibanda, panubanbadwida, tibanda, panubanbadwida, tibanda, payunda, payunda. Quand un obstacle me déroute, je le contourne et ce matin, c'est l'océan qui barre ma route. Tant pis, je vais le sauter pour aller plus loin. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade. Ce n'est que de l'eau, ce n'est que de l'eau, camarade.
Oh, c'est magnifique. Oh, dites maintenant, on va chez vous, on est pressé, hein.
Ben, c'est ici, chez moi.
Non.
Ben si, c'est ma maison de campagne.
Ben alors.
Bah, vous m'aviez dit que vous vouliez en faire un château, vous voyez que le plus gros est fait.
CO2, mon amour.
Il y a le téléphone?
Ni téléphone, ni eau, ni gaz, ni électricité.
Il n'y a rien alors?
Non, mais vous allez tout mettre.
Comment ça tout mettre?
Ben, vous avez écrit de fond en comble.
Oui, mais non, mais attendez, fond en comble, on va peut-être pas tout faire de fond en comble. On va laisser quelques ruines. C'est joli des ruines, vous avez été à Rome, il y a le Colisée, il y a le Forum, c'est joli des ruines.
Avec Denis Chessou. sur France Inter.
Oh, je sais que je suis en train de rénover ma maison, ça rigole pas. Là, dans C'est où de mon amour aujourd'hui. Et même, je vous le dis, parce qu'il y avait un petit reportage sur le chanvre. Ouais, non, pas celui qui se faisait pour fumer les murs, pas du tout. Ce sera dans quelques minutes, du côté de la Lozère. Enfin, pas du côté, franchement, Lozère, du côté de Mende, à l'École nationale du chanvre. Alors, on revient avec vous, donc, cher Olivier Sidler. Vous êtes toujours à Valence. Dites-donc, à Valence, il y a toujours le superbe kiosque qui a inspiré Pénet, c'est ça?
Absolument.
Ah, on est bien d'accord. Vous avez le Rhône derrière, oui, et après vous avez absolument. L'Ardèche, vous avez Cruzol avec son château.
Cruzol, voilà. Oui.
C'est beau comme tout. C'est très beau. C'est superbe. Alors, comment rénover efficacement? Donc, on a vu quels étaient les enjeux. On a vu quel était l'intérêt que nous pouvions avoir, nous, et bien sûr, pour notre merveilleuse planète. Maintenant, comment rénover efficacement? Dites-nous quelles sont les grandes lignes. L'idée, c'est ça dans cette émission, parce que le détail sur chaque maison que vous avez, vous qui nous écoutez, ça va être un petit peu compliqué, évidemment, de tout balayer. Mais quand même, quelles sont les choses à éviter et comment prendre cette affaire-là de rénovation?
Je pense qu'il y a deux grands principes qu'il faut mettre en œuvre. Le premier, c'est de faire l'ensemble des travaux en une seule fois. Rénover les murs, rénover le toit, rénover les planchers bas, changer les menuiseries, mettre une ventilation, changer sa chaudière, tout ça en une seule série de travaux.
Et là, les gens vous disent, ouais, vous êtes gentil, mais ça va me coûter une blinde et j'ai pas le fric. Voilà.
Voilà, ça c'est l'argument traditionnel, mais n'est pas juste. C'est ça qui est dommage.
Démontez-le, démontez-le.
Oui, c'est important parce que en fait, si vous faites les travaux comme on le fait actuellement, c'est-à-dire par étapes, on l'a bien entendu dans la présentation des aides tout à l'heure, vous pouvez rénover le toit, etc. Mais ce qui va se passer, c'est que d'abord, ça va vous coûter beaucoup plus cher à la fin si vous terminez. En général, d'ailleurs, vous faites que la première étape et vous allez jamais au bout. C'est-à-dire qu'on finira jamais la rénovation et on aura donc tué le gisement. Toute l'économie qui était possible au début, elle sera perdue. Donc, effectivement, 2050, on fera pas les réductions de carbone qu'on attendait. C'est la première chose. Ça va vous coûter beaucoup plus cher. Ça va vous coûter de 20 à 100% de plus que si vous aviez fait vos travaux en une seule fois, parce qu'il faut reprendre le chantier plusieurs fois.
Ok, premier argument, on comprend. Ça, d'accord.
Voilà, tout à fait. La deuxième chose, c'est que c'est pas finançable. Les aides dont on vous a parlé sont pas des aides qu'on peut étaler sur 10 ans. Principal qui est l'éco-PTZ.
Oui,
il faut l'avoir. C'est 3 ans, voilà, c'est tout. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que vous multipliez la gêne, les gens, la poussière, tout ça, et ça va une fois, mais si vous revenez tous les 5 ans pour faire des travaux, généralement, ils vous disent, non, c'est bon, je connais déjà. Ensuite, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est qu'il y a des travaux qui doivent être couplés. Vous pouvez pas faire l'un sans faire l'autre. Par exemple, vous changez les menuiseries, vous changez les fenêtres. Bah oui, mais avant, c'était le mode de ventilation de votre logement. D'un seul coup, il n'y a plus de ventilation, puisque la fenêtre est très étanche. Et à ce moment-là, si vous n'avez pas mis une ventilation mécanique en parallèle, ce qui se passe, c'est que les moisissures reviennent très vite dans votre logement. Vous avez un sentiment de malaise à l'intérieur, parce que vous respirez un air qui n'est pas renouvelé, qui est plein de CO2. Par exemple, vous devez aussi jamais changer la chaudière en premier et toute seule, parce qu'elle devient surpuissante. Et à ce moment-là, quand vous ferez la rénovation...
Ça c'est important, parce que vous avez des gens qui vous disent « Bon, je vais changer ma chaudière. » Et en général, on vous vend une chaudière assez puissante et peut-être même parfois surdimensionnée. Donc d'abord, ce que j'entends, c'est d'abord donc isoler, puis après penser à la chaudière et pas l'inverse.
Surtout pas l'inverse, mais le problème c'est qu'on change la chaudière quand l'ancienne vient de claquer.
Quand elle claque en
pénurie. Donc il y a urgence et là, il faut changer. Donc là, on est mal. Donc il faut essayer d'anticiper ces opérations-là. Effectivement, les chaudières, elles ont en moyenne 2 fois trop de puissance, ce qui est jamais bon. L'idée de qui peut le plus peut le moins, c'est une...
Pourquoi c'est pas bon?
Non, mais c'est pas bon parce que le rendement d'une chaudière décroît, il diminue lorsque son taux de charge baisse. C'est-à-dire que si au lieu de l'utiliser au maximum de sa charge, vous l'utilisez qu'à 50% ou à 20% ou à 10%, son rendement se casse la figure. C'est-à-dire qu'elle consomme beaucoup pour produire pas beaucoup.
Compris.
Et donc, ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Et si vous allez très loin du genre, j'avais une chaudière surdimensionnée d'un facteur 2, vous rénovez, vous divisez par 5, elle a maintenant un surdimensionnement d'un facteur 10. Ben là, elle va tomber en panne parce qu'elle va même pas pouvoir fonctionner. Elle va démarrer, s'arrêter, démarrer, s'arrêter, démarrer, s'arrêter, et hop, elle va tomber en panne.
Donc, l'ensemble des travaux en une fois pour vous. La chaudière, oui, mais attention, c'est pas la priorité, ça doit venir après. Et est-ce qu'il y a encore une autre...
La dernière chose,
voir, oui.
Oui, mais c'est surtout dans pourquoi il ne faut pas le faire par étapes, mais globalement,
oui.
Vous allez comprendre très vite. Imaginez, j'isole seulement la toiture. J'ai un logement sur 2 niveaux. À l'étage, j'ai réduit fortement les besoins des pièces, mais pas au rez-de-chaussée. Or, j'ai qu'une chaudière et qu'un régime de température au départ de la chaudière. Ça veut dire que je ne pourrais pas chauffer en bas et en haut si je maintiens pas la température qui était avant, c'est-à-dire que si j'ai pas des surchauffes en haut, aucun robinet thermostatique fera l'affaire. Et donc, en fait, et ça c'est grave, vous ne ferez pas les économies d'énergie que vous aviez envisagées, donc vous ne ferez pas l'économie financière, et donc votre opération sera déficitaire sur le plan du bilan économique global.
Je reviendrai tout à l'heure, Olivier Sidler, sur le toit, parce que c'est quand même une des perditions les plus importantes, de l'ordre de 30%. Ce que je vous propose, alors là c'est un petit focus.
La deuxième chose, Denis, oui. La deuxième chose quand même qui est importante, je vous ai dit, il y a deux impératifs. La deuxième, c'est de faire une rénovation performante, c'est-à-dire de ne pas s'embarquer avec des épaisseurs d'isolant insuffisantes. Je rappelle juste que l'isolant, le centimètre supplémentaire, coûte 0,5 € par mètre carré. Hein. Donc il faut aller directement, là, en une seule fois, au niveau BBC, c'est-à-dire au niveau de la basse consommation. Voilà les deux grands principes. Hein. Tout faire en une seule fois, contrairement à ce qu'on vous raconte partout, et le faire au bon niveau de la performance. Ça, c'est les clés de la réussite.
Je vous propose de remonter du côté de Valence. On va aller même un peu à l'ouest et on va se retrouver dans le département de la Lozère. Et en Lozère, alors là, c'est un petit focus parce que j'ai fait un reportage il y a un certain temps sur l'École nationale du chanvre. Alors il y a d'autres évidemment, matériaux, biosourcés, etc. Mais je trouvais ça intéressant de rencontrer à la fois ces artisans. Donc Rémi Chorda est le président de cette École nationale du chanvre. Sophie Barial est donc sa directrice. Il travaille aussi bien sûr avec la CAPEB, donc les artisans, et on va en savoir un petit peu plus là sur le Causse-de-Mende. C'est très beau, vous avez le Lot au pied, vous avez le Mont Lozère derrière, et hop, c'est parti pour le chanvre à Mende. Ah bah dis donc, c'est de la truelle, ça, de compétition, c'est pas mal. On a quoi donc, comment on appelle ça?
Les taloches,
je vais dire le
la truelle, une gamate, des brouettes, et dehors on a une bétonnière. Pour faire du béton de chanvre en application manuelle, c'est tout ce qu'il faut, on n'a pas besoin d'investir plus. Après, si on est une entreprise comme vous du rendement, il va falloir un manuscopique avec un malaxeur dessus, ou acheter une machine à projeter si on veut travailler un peu plus en avant dans la performance.
Sophie, et donc ici, nous sommes face à votre École nationale du chanvre, hein, donc qui est toute neuve. C'est une très belle initiative, qui est née d'ailleurs grâce au ministère du Logement, donc avec un programme PACTE. Et là, on est véritablement dans la transition énergétique.
En fait, le ministère du Logement s'est rendu compte qu'il y avait certaines lacunes au niveau de la formation des professionnels liées à la transition énergétique et à la rénovation des bâtiments. Du coup, ils ont monté un programme qui est consacré à ça et dans lequel on s'est inscrit. Du coup, c'est un projet financé par le ministère du Logement et aussi financé par des acteurs un peu plus locaux, oui. La région Languedoc-Roussillon et le département.
Et alors, le chanvre, on se doute bien qu'ici, il ne va pas pousser. Alors, il pousse où? Il pousse un peu plus bas dans le Gard ou...
Théoriquement, le chanvre pourrait pousser aussi ici, mais c'est vrai que c'est plutôt dans les Cévennes où on trouvera les cultures de chanvre les plus proches. Ouais. Nous, avec mon collègue Rémi, on est convaincus qu'à terme, même sur les hauteurs de Mende, on pourra faire pousser le chanvre, puisque c'est finalement une plante qui s'adapte à plein de milieux et qui pourrait très bien s'adapter à 800 ou 900 mètres d'altitude.
Alors évidemment, ici, on ne le fume pas, ce chanvre Rémi Chorda, loin de là, mais en revanche, c'est un isolant absolument super. Quelles sont les qualités de ce chanvre?
Ce chanvre a toutes les qualités. Qualité aussi bien phonique, hydrique, absorption du son, sécurité au feu, sinon...
Parce que les gens qui vont vous faire de la laine de verre ou de la laine de roche, ils vont dire pareil.
Ils vont dire pareil à ceci près que le chanvre a une durée de vie de 100 ans, alors que la laine de verre a une durée de vie de 50 ans et une durée d'efficacité qui est un peu cachée mais qui ne dépasse pas les 10 ans.
On isole quoi? On isole les murs, le toit, qu'est-ce qu'on fait?
On isole les murs, les toits, les sols. On peut travailler sur tout type de support, tout type de mur.
Puisque vous êtes vous aussi donc un homme du métier, un homme du bâtiment, Rémi, là on a bien vu qu'il y avait donc une... Un décret qui était passé concernant donc l'isolation des maisons, donc à savoir que si on doit refaire une façade à 50%, on doit avoir une obligation d'isolation par l'extérieur. Bien, est-ce que ça va respirer tout ça?
Absolument pas, à moins qu'on fasse une isolation par l'extérieur avec du béton de chanvre. Si on commence à enfermer l'humidité dans les vieux murs en pierre, on court à la catastrophe, et les moisissures qui vont se développer à l'intérieur. Et c'est bien gentil de faire des maisons cocotte-minute et puis de mettre des poumons artificiels là-dedans. Mais quand il y a de l'humidité dehors, on fait rentrer l'humidité dedans. Quand il y a des particules fines dehors, on fait rentrer les particules fines dedans. Or, on nous impose une maison complètement étanche avec un aspirateur qui prend l'air de dehors et qui le fait rentrer à l'intérieur. Pollué ou pas, on s'en fout, il faut qu'il rentre. C'est terrible.
On a ce chanvre. Alors, donc, comment il arrive en fait? Il arrive sous quelle forme pour arriver après, effectivement, à le travailler?
Alors là, il arrive un ballot de 20 kg. Après, on va le mélanger avec de la chaux formulée à différents dosages en fonction de ce qu'on veut faire. Là, par exemple, la dalle que nous voyons là, on a 2,5 sacs de chaux pour un sac de chènevotte. Pour les murs, on a 2 sacs de chaux pour un sac de chènevotte.
Alors, chènevotte.
La chènevotte, c'est le nom qui est donné au déchet agricole qui a été valorisé. C'est la tige du chanvre. Parce que dans le chanvre, tout sert. Les feuilles au papier, les fibres à faire de laine de chanvre, à faire du tissu, à faire des cordages. Et donc, il nous restait cette tige. Alors, dans les années 1985, on ne savait pas quoi en faire. Et c'est Charles Razetti, le premier, qui a eu l'idée de mélanger cette chènevotte avec un liant. Et depuis, il y a eu des essais de fait, il y a eu des chantiers contrôlés, il y a eu des règles professionnelles d'établis pour pouvoir assurer les ouvrages qui sont faits en béton de chanvre.
Qu'est-ce qu'il faut pour développer davantage, on va dire, ce matériau, on va dire, biosourcé aujourd'hui ?
En fait, il y a une réelle méconnaissance des particuliers de ce matériau-là et de ses caractéristiques. Donc nous, on prend le parti d'informer et de former les professionnels du bâtiment, que ce soit les artisans, les architectes, les bureaux d'études ou la commande publique, à utiliser le chanvre. Et on est persuadé que quand eux feront la prescription de ce matériau à leurs clients, c'est là que le marché et que le potentiel se développera. Dans le cadre de l'école du chanvre, on est en train de monter ce qu'on appelle un MOOC, c'est-à-dire de la formation à distance ouverte à tous, où les particuliers pourront s'inscrire, les architectes, les bureaux d'études. Et l'idée, c'est de former en 4 semaines les professionnels à la culture de la construction chanvre.
Rémi, quels sont les concurrents en matériaux biosourcés, on va dire, du chanvre ? Parce que vous avez quand même d'autres éléments. Alors on voit parfois la haine de mouton, on voit des tas de choses. Bon, le papier aussi qui peut être projeté. Donc
tous les matériaux sont performants, tout dépend de ce qu'on veut obtenir. Après, il faut savoir que la haine de mouton, c'est bien, c'est traité en usine contre les mites. Puis le traitement a une durée de vie qui n'excède pas 5 ans. Après, qu'est-ce qu'on va faire des mites qui vont venir dans cette isolation ? La laine de bois, c'est un très bon matériau, mais c'est un matériau par plaque. Alors ça va bien isoler, un particulier pourra se le faire tout seul, donc il ne faut pas dénigrer les autres matériaux, ils sont beaux. Le béton de chanvre, lui, ça va être un matériau sur un mur de 20 mètres carrés, on n'a qu'un panneau. Une fois qu'on l'a projeté, on a un seul panneau, on n'a pas de jouet, on n'a pas de scotch, on n'a pas de vis, on n'a rien qui perfore l'isolation. Il y a une cohésion parfaite avec le bâti ancien, c'est-à-dire que la surface de l'isolation est en contact à 100% avec le contact du support. Et puis on a cette capacité du chanvre à réguler l'humidité.
Ça, c'est très important.
Et c'est capital dans le confort thermique. On va pouvoir, avec des épaisseurs moindres, quand les bureaux d'études et les réglementations prendront en compte toutes les capacités du chanvre, on pourra isoler des maisons avec 8 cm de chanvre et obtenir le même confort thermique qu'avec 20 cm de laine de roche.
Bon, je m'intéresse à ma santé. Je me dis qu'a priori, ça va être meilleur tout ça, non ?
Vous avez certainement entendu parler de l'amiante.
Oui, ça va un petit peu.
On est resté 50 ans en utilisant de l'amiante, en sachant pertinemment que c'était très toxique. Or, moi, j'ai eu un rapport de l'INSERM entre les mains qui indique la laine de roche comme avérée cancérigène et la laine de verre suspectée que de l'être. Alors, on a encore 43 ans, je crois, avant d'atteindre les 50 ans d'utilisation de produits toxiques. Et après, on va mettre en place des entreprises spécialisées pour enlever la laine de verre, la laine de roche, qui a été mise dans toutes les maisons qui ont été construites depuis trop longtemps déjà. Hein.
Mais vous voulez la mort d'Isover et de Saint-Gobain, quoi.
Non, je veux pas leur mort. Je veux au contraire qu'ils se mettent à fabriquer de ces produits, parce qu'ils pourront permettre de faire baisser le prix si eux se mettent à le fabriquer.
Un rappel important, nous sommes aussi donc face à un végétal, ce qui veut dire qu'il va capter du CO2.
Va capter le CO2, et une fois qu'on l'aura mis à l'abri et protégé avec des enduits de chaux et chanvre ou chaux et sable, il sera là stocké durablement. Une maison de 100 mètres carrés peut stocker entre 20 et 30 tonnes de CO2. Si toutes les maisons étaient faites comme ça, on n'aurait plus de problème de CO2 dans l'atmosphère.
En tout cas, on en aurait beaucoup moins. Voilà. Réchauffement climatique et chanvre, quel est l'avantage de la chose ?
Le chanvre a un déphasage extraordinaire. On est sur une toiture où il y a 25 cm de chanvre, on est à entre 12 et 14 heures de déphasage. Ça veut dire que la chaleur qui tape sur la toiture tout au long de la journée ne traversera jamais cette isolation. Et on sera toujours au frais sous la maison.
Rémi Chorda, si on devait faire une petite proposition, parce que je sais que vous avez quand même pas mal d'idées, que souhaiteriez-vous ?
Mais une proposition qui serait idéale, ce serait de défiscaliser les produits biosourcés, c'est-à-dire le chanvre, la paille, le lin, tous ces trucs-là qu'on utilise dans le bâtiment. Alors défiscaliser ce produit, mais comme on ne peut pas tout demander à un gouvernement, eh bien, on va faire une compensation en appliquant réellement la taxe pollueur-payeur sur les matériaux en se basant sur l'énergie grise. L'énergie grise étant l'énergie nécessaire pour fabriquer un matériau. Un petit exemple vite fait.
Bien sur le béton.
Pour fabriquer un mètre cube de chaîne vôtre qui sert à faire le béton de chanvre, on va dépenser 6 kW. Pour fabriquer un mètre cube de laine de verre, ça va se situer entre 225 et 280 kW. Oui. Pour fabriquer un mètre cube d'acier, il faut 18 000 kW. Je pense que là, on peut y être gagnant, même en défiscalisant les matériaux, l'État peut encore y gagner.
Sophie Barrial et Rémi Chorda, donc de l'École nationale du chanvre qui se trouve à Mende. Juste un petit mot rapide avant de retrouver Florence Clément de l'ADEME, Olivier Sida. Là, c'était un coup de loupe. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est le matériau. Il y en a d'autres qui existent naturellement, qui sont biosourcés, que vous utilisez également, Olivier Sidler.
Bien sûr, oui, il y a beaucoup de matériaux biosourcés aujourd'hui sur le marché. Et même quand on fait une analyse des coûts, parmi les 5 isolants les moins chers au mètre carré pour une résistance donnée, 3 sont des biosourcés. Donc l'idée que les matériaux biosourcés sont très chers est une idée qui est fausse. Après, la mise en œuvre peut être un petit peu plus compliquée, mais c'est des matériaux qui sont très bon marché, c'est pas le problème. Permettez-moi quand même de pas être d'accord avec beaucoup de choses que dit votre interlocuteur, notamment sur tout ce qui est scientifique. Le renouvellement d'air, il est nécessaire, qu'il soit pollué ou pas, c'est celui qui rentre dans la maison, que vous pouvez respirer, vous pouvez pas avoir d'appareil qui supprime la pollution extérieure, malheureusement. Et deuxièmement, le renouvellement d'air, c'est aussi ce qui nous enlève l'humidité qu'on dégage tous à l'intérieur d'une maison. Chaque personne dégage en gros 2,5 litres d'eau en respirant, en se lavant, en faisant sa vaisselle, etc. chaque jour. Et cette eau, il faut l'éliminer du logement, sans quoi elle va traverser les parois. Et en traversant les parois, elle risque de rencontrer le point de rosée, de condenser, de faire des moisissures à l'intérieur. Donc voilà, tout ça s'est pris en compte, ça a été dit de façon très brutale et pas très exacte sur le plan scientifique dans ce qui précède. On a évidemment, c'est ce qu'on demande aux artisans aujourd'hui, de mettre en œuvre des freins vapeur, de bien étudier comment la vapeur va se déplacer, où est-ce qu'il faut la bloquer, quand est-ce qu'on peut ne pas la bloquer, etc. C'est important de rétablir ces choses-là, parce que quand on entend ce qui a été dit tout à l'heure,
Il a été un peu vite, voilà. Et d'ailleurs, effectivement, les formations que vous faites avec l'association donc Doremi, qui d'ailleurs appartient à l'économie sociale et solidaire, là évidemment, ils sont très 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 au point vos artisans. Ce que je vous propose, c'est de retrouver donc Florence Clément donc de l'ADEME, une deuxième, on va dire, brassée financière pour voir comment s'en sortir. Et alors, quid de l'audit énergétique lorsque vous avez besoin au départ d'avoir un audit énergétique pour voir ce qu'il y a comme déperdition dans votre maison?
C'est une nouveauté du crédit d'impôt en 2018. En effet, l'audit énergétique peut aujourd'hui bénéficier d'un crédit d'impôt. Alors cet audit énergétique, il est quand même conditionné à des petites choses. C'est-à-dire que il faut au moins que l'auditeur propose 3 scénarios de travaux, dont un scénario qui va atteindre un niveau BBC, bâtiment basse consommation. On encourage donc les particuliers à faire des travaux qui vont devenir de plus en plus performants, et on leur montre la différence grâce à cet audit entre comment va pouvoir être amélioré leur logement avec des petits travaux et comment faire pour atteindre le niveau BBC.
Alors, troisième gros volume, les certificats d'économie d'énergie. Je me suis rendu compte que les fournisseurs d'énergie avaient énormément d'affection pour moi. Voilà. Et donc, en gros, ils me démarchent. Et alors, comment fonctionne ce système? C'est quoi ça?
C'est vrai que c'est un système qui n'est pas facile à comprendre au premier abord. En fait, ces certificats d'économie d'énergie, c'est une obligation. Les fournisseurs d'énergie ont l'obligation d'aider les particuliers à réaliser des économies d'énergie. Alors, les fournisseurs d'énergie, c'est pas uniquement des fournisseurs de gaz, d'électricité, c'est aussi des fournisseurs de carburant, donc des grandes surfaces par exemple. Ils se sont engagés auprès de l'État à aider les particuliers. Alors, pour les aider, ils leur attribuent des primes, des chèques, même parfois des prêts. Et en échange, en fait, les particuliers cèdent les économies d'énergie qu'ils vont réaliser chez eux. C'est un petit calcul très très simple quand on est dans la partie, mais pas du tout compréhensible quand on est un particulier. Mais en tout cas, ils cèdent en fait leurs économies d'énergie aux fournisseurs d'énergie qui montrent ainsi à l'État, c'est bon, j'ai permis de réaliser des économies d'énergie.
Alors tout ce que l'on vient de dire là, en fait, est-ce que ça se cumule? Il y a des choses qui se retirent?
En effet, c'est là aussi que l'aide des conseillers des points rénovation info services est vraiment très importante parce que eux savent tout de suite en fait comment faire. Ils savent tout de suite vous dire ce qu'il vous restera à payer, puisque en fait toutes ces aides publiques, elles ne peuvent pas être cumulées toutes ensemble.
Ah oui.
Voilà, il y a forcément des conditions. Sinon, ça dépasserait parfois le montant des travaux. Hein. Vous auriez plus d'aides que ce que vous payez comme travaux.
On a vu tellement de choses, vous savez. Enfin bon. Moi...
Mais voilà. Donc par exemple pour le crédit d'impôt, ce que vous allez déclarer dans le crédit d'impôt, eh bien vous déclarez en fait toutes les subventions déduites. Donc si vous avez eu des aides de votre ville, de votre région, si vous avez obtenu des certificats d'économie d'énergie, si vous avez aussi eu des chèques énergie à déclarer, etc., il faudra les déduire. Et au final, ce que vous indiquerez sur la déclaration fiscale, c'est ce qui a été pris en charge par vous réellement.
Un autre point, là on va parler de prêt. Autrement dit, on doit le rembourser, c'est le prêt donc à taux zéro, le fameux éco-PTZ. Qu'est-ce que c'est ?
C'est un prêt qui a été mis en place il y a quelques années pour permettre aux particuliers qui n'avaient pas suffisamment de trésorerie de pourtant se lancer dans des travaux. Pour essayer justement d'aider ces personnes à ne pas se dire « je ne peux pas faire de travaux parce que je n'ai pas d'argent de côté ». C'est un prêt donc qui est sans intérêt. C'est l'État qui prend en charge les intérêts et ça permet aux particuliers de réaliser des travaux d'économie d'énergie chez eux à une condition, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins deux actions qui soient réalisées, par exemple l'isolation du toit et le changement du système de chauffage.
Mais si j'en ai trois ou quatre, ça fonctionne. Hein.
Et ça fonctionne aussi. Et en fait, le montant qu'on va vous prêter, il va être de plus en plus important en fonction des travaux que vous réalisez. Alors, pour deux actions de travaux, on limite quand même le prêt à 20 000 euros. Si vous réalisez trois actions de travaux, vous allez pouvoir avoir un prêt jusqu'à 30 000 euros. Donc 30 000 euros, ça couvre quand même des grosses rénovations.
Mais il faut le faire en une fois, tout ça.
Alors, en effet, il faut faire des travaux de manière concomitante. Hein. Mmh. Vous ne pouvez pas étaler trop longtemps. En revanche, vous avez quand même 2-3 ans pour réaliser les travaux et puis vous retournez voir la banque. Et là, vous leur donnez la facture finale et ça marque la fin. On considère que c'est bon, les travaux ont été réalisés. Ça ne veut pas dire que vous devez rembourser le prêt en 2-3 ans. Hein. Là, vous avez 10 à 15 ans pour rembourser le prêt.
Si on veut en savoir un peu plus, 0-808-800-700, 0-808-800-700, c'est bien ce numéro. Là,
c'est bien ce numéro.
Qui est donc le numéro de...
Et c'est là que vous allez être mis en relation avec le conseiller qui va répondre aux besoins que vous avez réellement.
Florence Clément, donc de l'ADEME. Alors, assez rapidement, il nous reste très peu de temps, Olivier Sidler. Donc, par rapport à ce financement qui est quand même le cœur du truc, c'est vrai que les toits, je le disais, donc on a une perte à peu près de 30%, les murs 20 à 25%, les fenêtres 10 à 15%, on a aussi les sols, les planchers. Mais que dire donc sur ce système qui est quand même une usine à gaz, quoi, soyons clairs, il faut un bac plus je sais pas combien pour arriver à s'y retrouver.
10, voilà, pas moins de 10. Ouais. Okay. C'est un système qui est ingérable, absolument ingérable. Il est beaucoup trop compliqué, il y a 15 lignes de crédit, il y a un tas d'aides locales, il faut effectivement des spécialistes pour monter ce dossier. Et surtout, si vous faites pas, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les travaux en une seule fois, avec un seul devis global pour tous les travaux, vous allez dilapider cette aide. Ce qui se passe depuis 15 ans, c'est critiqué par la Cour des comptes, ça n'a pas d'efficacité en termes d'économie d'énergie. Il faut tout remettre à plat, toutes les aides, vous les supprimez, vous faites un seul prêt à taux zéro pour toute la France. Et j'ai calculé qu'avec ça, vous pouvez rénover, sans dépenser un euro de plus qu'aujourd'hui, 650 000 logements par an. Au niveau BBC, simplement, il faut que les banques, et on va faire appel à elles ici, il faut que les banques acceptent de rentrer dans le jeu, comme elles ont mollement accepté de le faire sur l'éco-PTZ, qui était quelque chose, la même chose, mais à plus petite échelle. Si les banques n'entrent pas dans le jeu, on n'aura jamais ce système de financement qui, pourtant, solutionne tout.
Et elles ont, guichet, et elles ont peu porté, on peut le dire, ce prêt éco-PTZ. Hein. Elles n'ont pas beaucoup porté ce prêt jusqu'à présent.
Non, elles n'ont pas beaucoup porté. Là, c'est la même chose, mais à beaucoup plus grande échelle. On finance la totalité des travaux et pas seulement des petits bouts à droite et à gauche. Ça s'équilibre. Les calculs nous l'ont montré. On les a présentés dans les ministères. Ça marche. Mais on a un problème avec les banques que ça n'intéresse pas. Alors, est-ce que elles pourraient peut-être faire un effort vis-à-vis de cette question du changement climatique ? C'est bien ça l'enjeu, je crois, non ?
Alors, à peine un Français sur trois aujourd'hui identifie correctement la principale zone de déperdition de chaleur de son habitat. J'ai vu aussi que 6% connaissent la part financière qui pourrait être prise en charge par l'État. Donc, il y a du travail. Oui, effectivement, tout ceci. Alors, faut essayer de le prendre comme étant non pas un coût, mais comme étant un investissement. On a une TVA aussi qui n'est pas inintéressante, à 5,5, hein, sur les matériaux et les équipements.
Mais oui, mais tout ça, ça fait partie de ces aides qui sont un peu dispersées partout, d'accord, qui ont été, pour beaucoup, qui ont été récupérées par des artisans qui sont pas, qui ont pas toujours très bien joué le jeu, hein. Moi, j'ai vu des chaudières à 8000 euros quand elles en valent 3300. La différence, c'est justement le crédit d'impôt, 5000 euros. Donc voilà, les gens ont pas joué le jeu et le système s'est cassé la figure tout seul.
Bon, mais en même temps, on est sur la fin de quelque chose et on peut espérer quand même arriver à un résultat intéressant parce que ça vaut le coup quand on le fait, hein.
Ah ben ça marche très bien, vous faites des économies qui financent les intérêts de vos emprunts, c'est-à-dire que vous gagnez de l'argent dès la première année, à condition de faire la totalité des travaux et de les faire au bon niveau de la performance, et de trouver le bon groupement d'artisans qui va pouvoir vous faire ça. Donc merci. Il faut se référer au réseau Doremi.
Ben voilà, donc merci à vous qui n'êtes pas partout en France, loin de là, mais enfin on a donné les indications sur le site de CO2. Merci à Léo Prangère, Antoine Teboul, Bastien Chapelle, à France Bleu de Romardèche, Camille Blanès, Marion Philippe, Xavier Pestugia qui réalise l'émission, la programmation musicale de Muriel Pérez, Anne Gouzon donc qui nourrit les sites, et nous on se retrouve. Et bien la semaine prochaine, on va prendre des bottes. Pourquoi ? Parce qu'on va être dans le hall numéro 1, puis on va être à côté de Jolie Vache, on va être à côté d'Aubrac, de Vache Nantaise. Donc autrement dit, je vous attends avec grand plaisir au salon de l'agriculture. Rediffusion, podcast, vous en avez l'habitude, donc le podcast, abonnez-vous. La tue du bon petit loup, demain à 19h54.
CO2 mon amour, avec le WWF. Changeons nos modes de vie pour vivre en harmonie avec la nature. Rendez-vous sur www.fr.